VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 2 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Grève des médecins au Nigeria, ils revendiquent des arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Au Cameroun, Human Rights Watch dénonce à nouveau des exactions commises par l'armée et les séparatistes anglophones. Week-end mortel dans les transports en RDC, 11 personnes ont perdu la vie dans un naufrage sur le lac Tanganyika et 33 autres sont décédées dans la collision d'un camion transportant du carburant et un bus. Afghanistan en poursuite des combats pour empêcher les talibans de s'emparer de grandes villes. Ne manquez pas dans cette session d'information les sports avec notre focus sur les Jeux Olympiques, mais tout d'abord le journal. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux. Le pays craint maintenant une troisième vague de coronavirus. Le point avec Rosine Monezero.
La grève des médecins, dernière d'une série menée par l'Association nationale des internes, qui représente 40% des médecins au pays, a commencé ce matin, a affirmé le président de l'association, Oyilawa Okwuesuyi. Nous demandons au gouvernement de verser des assurances vie à 19 de nos membres qui sont morts alors qu'ils travaillaient en première ligne, a-t-il ajouté. Les médecins nigérians menacent régulièrement d'entrer en grève, espérant obtenir le paiement de leurs arriérés de salaire. Ils dénoncent également un nombre insuffisant de lits, de médicaments et de kits de protection dans les hôpitaux. Les autorités craignent que la grève ne vienne déstabiliser un peu plus le système de santé fragile et mis à l'épreuve par la pandémie de coronavirus. Le Nigeria a officiellement enregistré plus de 174 000 cas de COVID-19 et 2149 morts. En juillet, le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies a déclaré avoir détecté la présence du variant Delta, ce qui ravive les craintes d'une troisième vague dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
5 Nigériens arrêtés début juillet à Abuja pour avoir porté des t-shirts appelant au départ du président Muhammadu Buhari sont toujours détenus ce lundi par la police d'État. La Haute Cour fédérale d'Abuja avait ordonné la semaine dernière au département de la sécurité d'État de les libérer. Ces 5 hommes avaient été arrêtés durant le service d'une église évangélique le 4 juillet et ne sont pas toujours relâchés malgré cette décision de la justice. Toujours au Nigeria, la justice a formulé de nouvelles inculpations pour terrorisme contre le principal dirigeant de la minorité chiite, a annoncé dimanche un avocat de l'accusation, quelques jours après l'acquittement du chef religieux Ibrahim Zakzaki pour meurtre après plus de 5 ans de détention. Le dirigeant de la minorité chiite du Nigeria et sa femme, accusés de meurtre, ont été relaxés mercredi par le tribunal de Kaduna et ont recouvré la liberté. Au Niger voisin, 15 militaires ont été tués samedi et 6 autres sont portés disparus après une attaque dans le département de Torodi, proche du Burkina Faso, a annoncé dimanche soir le ministère nigérien de la Défense. Le gouvernement nigérien a expliqué que les forces de sécurité qui étaient en mission de ravitaillement avaient d'abord été prises dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes avant que les militaires tentant d'évacuer les blessés ne tombent eux-mêmes sur un engin explosif improvisé. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a insisté aujourd'hui pour que des prisonniers qu'il qualifie de politiques soient libérés. Il dit avoir transmis la semaine dernière au chef de l'État Alassane Ouattara une liste de 110 détenus dont certains sont emprisonnés depuis la crise de 2010-2011. Il ne m'a pas dit non, mais il ne m'a pas dit oui. Il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. C'est la réponse qui m'a été faite, a déclaré ce lundi M. Gbagbo. Au Cameroun, l'ONG Human Rights Watch a encore dénoncé aujourd'hui de nouvelles exactions commises par l'armée et les séparatistes dans les régions anglophones, appelant les deux parties à protéger les civils. Les détails avec Marius Mounga.
Dans un communiqué, Human Rights Watch précise avoir échangé avec plusieurs victimes, des proches et des témoins. Selon l'ONG, les 8 et 9 juin de cette année, des membres des forces de sécurité ont tué 2 civils, violé une femme âgée de 53 ans, détruit et pillé au moins 33 bâtiments, des magasins et des logements, y compris la demeure d'un chef traditionnel dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun. Human Rights Watch a également accusé les séparatistes d'être responsables des tueries le 6 juin dans la région du sud-ouest et de l'enlèvement de 4 travailleurs humanitaires le 25 juin dans le nord-ouest. Les ONG et l'ONU accusent les deux parties de mener des exactions et des crimes contre des civils dans un conflit qui a fait plus de 3500 morts et plus de 700 000 déplacés. Contacté par l'AFP, le ministère camerounais de la Défense n'a pas souhaité faire de commentaires.
En République démocratique du Congo, des dizaines de jeunes ont caillassé dimanche l'archevêché de Kinshasa et dans le Kasaï, 12 édifices catholiques ont été attaqués. 48 heures après des divergences sur le choix du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ces lieux de culte ont subi une profanation progressive et systématique dont les auteurs ont emporté des tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, a expliqué Mgr Bernard Emmanuel Kasanga, évêque de Mbujimayi au Kasaï oriental. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Toujours en République démocratique du Congo, une trentaine de personnes sont mortes calcinées dans la collision d'un camion transportant du carburant et d'un bus sur l'une des principales routes de ravitaillement de Kinshasa dans l'ouest et 11 personnes ont péri dans le naufrage d'une embarcation sur le lac Tanganyika ce week-end. Le point avec Nani Talani.
Le capitaine Antoine Pouloulou, chef de la police de circulation routière de la province du Kwango, affirme que 33 personnes ont été calcinées par le grand feu provoqué par la collision entre un gros véhicule transportant du carburant et un bus bondé dans la nuit de samedi à dimanche à une dizaine de kilomètres du pont Kwango. L'accident a eu lieu sur l'axe routier Kinshasa-Kikwit, à près de 180 km de Kinshasa. Par ailleurs, 11 personnes, dont 4 femmes et 7 enfants, ont péri dans le naufrage d'une embarcation dans la même nuit de samedi à dimanche sur le lac Tanganyika dans l'est de la RDC. Nous venons aussi d'enregistrer 62 rescapés, a précisé ce lundi Kashindi Bovary, assistant du chef de police lacustre de la localité de Mboko. Le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord n'est pas connu, mais les autorités ne font pas état de disparus. La pirogue motorisée, qui transportait des passagers et des marchandises, avait quitté Ouvira, à l'extrémité nord du lac, à destination du village de Karomba, dans la presqu'île d'Ouboiri. Il a heurté un rocher vers minuit et a fait naufrage au niveau de Mboko.
À Madagascar, de nouveaux suspects, dont des généraux, des militaires et des policiers, ont été arrêtés à la suite d'un projet de jouer d'assassinat du président André Rajoel. 21 personnes ont été arrêtées et font l'objet d'une enquête, a indiqué dimanche la procureure générale. Parmi elles, 12 sont des militaires et gendarmes en activité, dont 5 généraux, 2 capitaines et 5 sous-officiers, a précisé la procureure malgache. Tunisie, inquiétude après l'arrestation de plusieurs députés critiques du président Kais Saied, 2 députés du mouvement Al-Karama, un parti ultra-conservateur, Allié et Denada ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche. Vendredi, un député indépendant, Yassine Ayari, qui dénonçait aussi un coup d'état militaire, a été arrêté en application d'une condamnation à 2 mois de prison prononcée fin 2018 pour avoir critiqué l'armée, selon la justice militaire tunisienne. Son incarcération a suscité l'inquiétude d'ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International. La Libye, qui fait face à une recrudescence des cas de COVID-19, a reçu aujourd'hui 2 millions de doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, a annoncé le premier ministre libyen Abdel Hamid Beba, tout en appelant la population à se faire vacciner. Le chef du gouvernement de transition a également annoncé l'arrivée dans les prochaines semaines d'1,5 million d'autres doses, sans en préciser l'origine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sénateurs américains ont achevé dimanche l'examen d'un gigantesque plan d'investissement dans les infrastructures de 1200 milliards de dollars et qui devrait être approuvé dans les prochains jours, a annoncé le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. S'il est adopté par le Congrès puis promulgué, ce programme crucial dans l'agenda du président Joe Biden doit en particulier financer des ponts, des routes, des canalisations et des réseaux Internet à haut débit. Il prévoit aussi des investissements massifs dans les énergies vertes et les bus électriques. En Afghanistan, les combats continuent entre talibans et forces afghanes dans la ville de Lashkargah, dans le sud du pays. Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient accueillir des milliers de réfugiés afghans supplémentaires. Claire Morin-Gibou.
Le gouvernement afghan a annoncé le déploiement de centaines de membres d'unités de commando à Lashkargah pour empêcher qu'une première capitale provinciale ne tombe aux mains des insurgés qui resserrent leur étau sur plusieurs grandes villes. Dans la nuit, les talibans y ont mené une attaque coordonnée sur la prison, mais ont été repoussés, a indiqué l'armée afghane. Outre Lashkargah, Kandahar et Herat, deuxième et troisième ville du pays, sont depuis quelques jours sous la menace directe des talibans qui affrontent les forces afghanes dans leurs faubourgs. Dans un discours au Parlement, le président afghan, Ashraf Ghani, a attribué la dégradation de la situation militaire à la brusque décision des États-Unis de retirer leurs troupes internationales du pays. L'opération de retrait des forces étrangères, présente depuis 20 ans dans le pays, est désormais quasiment terminée. Face à la hausse des violences, Washington a annoncé son intention d'accueillir des milliers d'Afghans supplémentaires qui pourraient être en danger en raison de leur proximité avec les États-Unis.
Place maintenant au sport, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le podium du 3000 mètres steeple messieurs est africain. Aux 5000 mètres dames, l'argent et le bronze reviennent respectivement à la Kenyane Hélène Obiri et l'Éthiopienne Goudaf Tesgay, Nanit Talani.
Le Marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion olympique du 3000 mètres steeple. Il devient le premier Marocain médaillé d'or aux Jeux tous sports confondus depuis Hicham El Guerrouj en 2004. El Bakkali, 25 ans, a devancé en 8 minutes 8 secondes l'Éthiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen. Il succède au palmarès au Kenyan Conseslus Kipruto, absent cette année. Le Marocain met ainsi fin à l'incroyable domination kenyane sur la distance après 9 titres olympiques consécutifs depuis 1984. Aux 5000 mètres dames, la double championne du monde en titre, la Kenyane Hélène Obiri, s'est contentée de l'argent comme en 2016. Elle a réalisé un temps de 14 minutes 38 secondes, se classant deuxième devant l'Éthiopienne Goudaf Tsegay. L'or est revenu à la Néerlandaise d'origine éthiopienne Sifan Hassan, facile d'aisance dans le dernier tour, 14 minutes 36 secondes. Elle succède au palmarès à la Kenyane Viviane Cheruiyo, victorieuse à Rio en 2016. Née en Éthiopie, Sifan Hassan est arrivée aux Pays-Bas en tant que réfugiée en 2008.
Merci, Nanit. La mauvaise surprise du jour vient du 400 mètres hommes. Le Sud-Africain Wade Van Niekerk, recordman du monde et champion olympique en 2016, est out. Par contre, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou retrouve le sourire dans l'épreuve du 200 mètres dames. Bagassikoura.
Oui, en demi-finale du 200 mètres dames, Marie-Josée Talou a terminé la course en tête dans sa série avec un chrono de 22 secondes 11. L'Ivoirienne tentera d'arracher une médaille en finale, elle qui a fini au pied du podium au quatrième rang la semaine dernière lors de la finale du 100 mètres. Autre africaine qualifiée pour la finale du 200 mètres dames, les deux athlètes hyper-androgènes namibiennes, Béatrice Massilingué et Christine Mboma, 18 ans toutes les deux. Mboma particulièrement a battu une nouvelle fois le record du monde junior, mais surtout le record d'Afrique. Elle a terminé sa course en 21 secondes 97. Déception par contre pour la Nigérienne Aminatou Seni. L'athlète hyper-androgène est éliminée, finissant cinquième de sa série en 22 secondes 54. En finale ce jeudi, Marie-Josée Talou, Béatrice Massilingué et Christine Mboma devront batailler dur pour arracher des médailles face aux autres athlètes favorites. La Jamaïcaine Hélène Thompson-Era, sacrée sur le 100 mètres et aussi tenante du titre du 200 mètres. Et sa dauphine Shelly-Ann Fraser-Pryce à suivre aussi de près la Banaméenne Shone Miller-Wibo. Coup dur aux 400 mètres, messieurs, le Sud-Africain Van Niekerk a craqué dans la dernière ligne droite et terminé seulement 4e en 45 secondes 14 dans les demi-finales. L'athlète de 29 ans est éliminé. Van Niekerk a été l'une des stars des JO de Rio avec un record du monde sensationnel en finale, 43 secondes 03. Il a ensuite été longtemps éloigné des pistes après une grave blessure au genou en 2017, juste après sa médaille d'or mondiale. Décroché à Londres.
Merci, Bagassi. En basketball, troisième défaite de suite pour le Nigeria chez les dames. Après s'être incliné face aux États-Unis et à la France, les Nigérians ont perdu 83-102 devant le Japon. Elles restent donc dernières du groupe B. Grosse déception pour les Américaines dans le foot féminin. Comme en 2016 à Rio, les États-Unis ont été stoppés dans leur quête d'un cinquième titre olympique, éliminés en demi-finale par le Canada 1-0. En gymnastique, c'est la dernière chance de revoir Simone Biles, la superstar de la gymnastique qui a renoncé à 4 finales en raison de perte de repères dans l'espace, participera à celle de la poutre demain. L'annonce a été faite par la Fédération américaine de gymnastique. La quadruple championne olympique en 2016 et 19 fois championne du monde a quitté la finale du concours général par équipe après un seul saut. Elle a ensuite déclaré forfait pour 4 autres finales à 24 ans pour ses deuxièmes JO. Simone Biles est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de perte de repères dans l'espace. C'est ici que se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux Olympiques.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, profanation des églises catholiques dans le Kasaï, menace à l'endroit du cardinal Fridolin Ambongo après les désaccords survenus parmi les chefs de confession religieuse pour désigner le nouveau président de la CENI. Les évêques catholiques du pays ont appelé le pouvoir à mettre fin à cette situation qui met en péril la nation. Eddie Sango a joint à Kinshasa le chancelier du cardinal Fridolin Ambongo, l'abbé Georges Njila.
La réaction, c'est tout à l'heure là, la CNCO vient de signer un communiqué, le regret par rapport à ces actes ignobles qui ont eu lieu à l'archevêché, à la résidence du cardinal. Mais déjà quelques jours avant, nous avions connu le même fait dans le diocèse de Mbujimayi, là où il y a eu profanation des églises. On a volé quelques biens des églises. Nous pensons que la conscience de toutes les valeurs que nous respectons reviendra et que les faits causés ou les dégâts causés pourront être réparés. L'essentiel, c'est que nous devons tous regarder vers l'objectif qui nous attend, c'est-à-dire construire un pays totalement démocratique. Le souci des évêques, c'est de faire que notre pays soit un cadre de vie meilleur pour tous les Congolais. Alors s'il y a de tels actes, on risque de beaucoup reculer par rapport aux souhaits et par rapport aux avancées que le pays commence déjà à faire timidement.
Mais les évêques semblent pointer du doigt le parti au pouvoir et ses militants.
Non, pour l'instant, ils n'ont pas encore porté un tel jugement que c'est tel ou tel autre. On peut avoir extérieurement des éléments de rapprochement, mais ça ne suffit pas encore. Il faut que des enquêtes sérieuses soient faites.
Néanmoins, les évêques en appellent aux dirigeants pour mettre fin à cette situation.
Effectivement, ils ont appelé au sens de responsabilité des dirigeants. Mais aussi le peuple lui-même, savoir que devant certaines situations, il faut rester responsable. C'est-à-dire, un peuple qui est responsable n'a pas le droit ni le devoir de détruire ou de menacer. Les dirigeants aussi responsables n'ont pas le droit ni le devoir de laisser des personnes menacer les autres pour casser leurs biens.
Ceux qui s'en prennent au cardinal et à l'Église catholique les accusent de s'adonner à la politique, notamment par rapport à leur position quant à la désignation des dirigeants de la CENI.
Depuis toujours, les évêques conseillent. Ce n'est pas qu'il y a un combat au sein du militantisme. Les évêques conseillent le profil de celui qui doit diriger la CENI et surtout le visage que doit avoir la CENI, c'est-à-dire une structure indépendante. Les animateurs doivent être remarqués par leur honnêteté, leur indépendance, leur compétence. Et il y a beaucoup d'avantages pour cela. Je ne vois pas ces portes qui sont en lutte contre un groupe ou un autre. Non, pas du tout. Mais ils font des conseils et ils insistent sur les valeurs qu'ils doivent porter la CENI aujourd'hui.
L'abbé Georges Njila, chancelier du cardinal Fridolin Ambongo.
Sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Cameroun, plus de 1000 femmes ont demandé la fin immédiate des hostilités et un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise séparatiste qui a tué au moins 3000 personnes dans les régions anglophones. Réunies lors d'une conférence dans la capitale, Yaoundé, ces femmes ont également témoigné de cas de violence et de torture par les combattants séparatistes et les troupes gouvernementales. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, récit Claire Morin-Gibou.
Appelé hymne des femmes camerounaises, a retenti dans les haut-parleurs d'un centre de conférence à Yaoundé. Ces femmes disent qu'elles veulent l'arrêt des effusions de sang dans les régions anglophones. Parmi le millier de femmes présentes à cette conférence de la paix qui s'est terminée samedi soir, il y avait Caroline Agbor, une enseignante de Mamfé, une ville anglophone du sud-ouest. Elle raconte qu'en septembre 2018, des combattants séparatistes ont amputé des parties de son corps. Elle n'avait pu collecter que $50 sur les $200 que réclamaient les combattants pour acheter des armes.
Les combattants m'ont dit que ce n'était pas suffisant et que cela voulait dire que je ne voulais pas les soutenir pour acheter des balles. Les trois premiers doigts de ma main gauche ont été coupés et j'ai 4 blessures sur la moelle épinière. C'est à l'hôpital que j'ai réalisé que j'avais de multiples blessures. Dieu m'a sauvée, je suis toujours en vie.
D'autres femmes ont également raconté qu'elles ont été torturées et violées par des soldats gouvernementaux et par des combattants séparatistes. L'armée et le gouvernement ont réfuté ces allégations et ont promis de sanctionner toutes les troupes reconnues coupables de viol. Un groupe appelé Northwest Southwest Women Task Force, en collaboration avec d'autres associations de femmes, a organisé cette réunion pour la paix. Eileen Manka est la porte-parole du groupe de travail qui apprend aux civils à rechercher des solutions pacifiques au conflit. Pour elle, ce sont les femmes et les filles qui sont les plus durement touchées.
Ce sont les femmes qui restent pour enterrer les morts, pour soigner les blessés. Et voyez-vous, quand une femme veut fuir les conflits, elle doit courir avec ses enfants. Quand un homme s'enfuit, il s'enfuit seul. Des femmes seules ont créé leurs propres entreprises. Leurs entreprises ont été incendiées. Nous avons des cas de femmes qui se sont enfuies vers les villes et qui sont maintenant des prostituées. Nous avons des cas de jeunes filles qui sont maintenant violées dans les villes en raison de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Le ministère camerounais de l'Éducation rapporte que 60% des 600 000 enfants qui n'ont pas pu aller à l'école depuis le début de la crise séparatiste en 2016 sont des filles. 75% des 100 000 agriculteurs qui ont fui leurs terres dans les régions anglophones de l'Ouest sont des femmes. Et 60% des personnes qui ont abandonné leurs magasins sont des femmes. Rosaline Oba est la coordinatrice du Cameroun Community Media Network qui plaide en faveur d'un retour à la paix. Et elle appelle le gouvernement et les combattants à s'engager dans un véritable dialogue autour de la paix et de la solidarité au Cameroun.
Aucun véritable pourparler de paix ne peut avoir lieu au milieu d'une violence extrême. La raison pour laquelle l'une des principales recommandations des femmes est que les hostilités doivent cesser immédiatement. Et bien sûr, nous devons aller à la table des négociations. Un dialogue véritable, car si ce n'est pas un processus inclusif, nous n'aurons aucune solution à la crise séparatiste.
Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre camerounaise de l'autonomisation des femmes, a déclaré que le gouvernement va examiner les propositions faites par ces femmes.
Nous avons besoin de toutes les forces pour reconstruire, restaurer et consolider la paix au Cameroun. Nous avons reçu l'appel à la paix et avons répondu en disant que nous sommes prêts. Sachez que le gouvernement de la République salue votre engagement et promet tout le soutien nécessaire.
Selon l'ONU, plus de 3000 personnes ont été tuées dans les régions anglophones depuis le début des combats en 2017. Les troubles ont commencé avec des enseignants et des avocats anglophones qui protestaient contre la domination francophone. Puis des groupes séparatistes ont pris les armes exigeant l'indépendance d'un État anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Ce mouvement a été réprimé par les autorités qui appellent les dissidents à se rendre ou à être tués. Plus de 550 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été déplacées des régions anglophones vers des villes francophones ou vers le Nigeria voisin.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, une communauté minoritaire appelée Bassari est victime de ces noms de famille. Peu connus des Guinéens, les Bassari font l'objet de rejets et de tracasseries administratives. Leur nom suscite des interrogations au point que certains les considèrent comme des étrangers. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara.
Les Bassari sont établis depuis plusieurs siècles dans le nord-ouest de la Guinée, dans des villages enclavés, presque isolés. Les noms qu'ils portent sont improbables et les exposent à des tracasseries de toutes sortes. Jean-Pierre Boban témoigne.
On n'a pas couramment entendu Bouban Bigar Bonang. Et du coup, les gens pensent que nous sommes des étrangers venus soit du Togo, de la Côte d'Ivoire. C'est pas une fois ou deux fois, c'est plusieurs fois. Et disons, à tout moment, voilà ce qu'on nous dit tout de suite après présentation du nom. Et aujourd'hui, obtenir un papier, il faut vraiment rassembler beaucoup de preuves. Ça, c'est des difficultés. Quand vous voyagez, dès que vous présentez la carte d'identité, on vous descend pour des interrogations.
Victimes de rejet et de discrimination, certains Bassari sont poussés vers le complexe et la résignation. Aboubakar est Bassari, résident à Conakry.
Une fois que vous vous identifiez à travers votre nom, vous vous identifiez à travers votre culture, soit vous êtes discriminé, soit vous êtes rejeté. Et ce qui a occasionné par endroits aussi un complexe au niveau du Bassari. Certains Bassari qui sont complexés de ce qu'ils sont. Parce que vu l'image qu'on lui renvoie, certains peut-être vont vers une sorte de déracinement où ils pensent que c'est mauvais d'être Bassari.
Les jeunes Bassari de Conakry ont décidé de se faire entendre. Ils évoluent désormais au sein d'une association pour défendre la cause de la communauté. Jean-Pierre Boban.
Nous avons une ONG aussi qui s'intéresse à ce qu'on prenne nous-mêmes la sensibilisation et l'éveil de nos propres communautés. L'Organisation pour le développement de tout l'homme. Nous cherchons à peut-être porter le message à qui de droit pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons apporter dans ce pays.
Les Bassari sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement sur les plateaux du Sénégal oriental et dans le nord de la Guinée. Ils forment un groupe plus large nommé Tanda. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Avec la propagation du variant Delta aux États-Unis, les autorités mettent en place de nouvelles directives sur le port du masque. Certains employeurs et même des restaurants exigent une preuve de vaccination. Michel Quinn nous en dit plus dans un récit d'Abdourahman Dia.
Les États-Unis font une nouvelle fois face à une remontée en flèche des cas de COVID-19, essentiellement dû au variant Delta très contagieux. Deux hôpitaux de San Francisco ont vu plus de 200 employés testés positifs. La plupart avaient été totalement vaccinés, selon le New York Times. Au cours du week-end, la Floride a battu son propre record journalier avec plus de 21 000 nouveaux cas. Le docteur Anthony Fauci est conseiller médical du président Joe Biden. Il s'est exprimé sur la chaîne ABC.
Nous vivons en fait dans une période de défi en matière de santé publique très grave ici avec une pandémie, avec un virus qui a une capacité extraordinaire de se propager rapidement et efficacement d'une personne à l'autre.
Avec 100 millions d'Américains non vaccinés, les autorités essaient de réagir. La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé que les employés fédéraux doivent être vaccinés ou subir des tests obligatoires, une décision critiquée par certains syndicats qui accusent le gouvernement de violer les droits des travailleurs. Dans le même temps, les centres de prévention et de lutte contre les maladies recommandent à tout le monde, y compris les vaccinés, de porter un masque à l'intérieur dans les endroits où la transmission est élevée. Et le médecin traitant du Congrès veut que les membres de la Chambre portent un masque. Certains législateurs ont critiqué la nouvelle règle qui n'affecte pas le Sénat. La révision de certaines règles peut avoir un certain effet. Selon la CNN, le rythme de vaccination aux États-Unis a bondi de 21% la semaine dernière par rapport à trois semaines plus tôt. Il est même plus élevé dans certains États du Sud où le niveau de vaccination est généralement très bas.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.